Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Noël Aluzi Tukabambi.
La journée mondiale de la liberté de la presse, c'est ce 3 mai. La coalition des médias libres, composée des ambassades de l'Allemagne, du Pays-Bas, du Canada et de la Grande-Bretagne, affirme s'engager aux côtés de journalistes congolais pour les aider à produire une information libre, indépendante et pluraliste. Propos tenu hier en marge de cette journée au cours d'un dîner avec des journalistes congolais. Il sera aussi question dans ce journal du travail des journalistes de Beni au Nord-Kivu avec l'invité du journal, Mustapha Mulonda. Il est le président de l'Union national de la presse du Congo, UNPC Beni. Journée ville morte de 3 jours décrétée depuis hier jeudi par la société civile Daru en Ituri. Les activités économiques sont restées paralysées hier sur toute l'étendue de ce territoire. C'est pour dénoncer le regain de criminalité à Aru et à Ariwara, ainsi que la vente du véhicule anti-incendie du territoire par un service étatique. Confusion autour de la publication des résultats de l'élection des sénateurs dans la province du Tanganyika. Les résultats du vote manuel sont différents de ceux du vote électronique. Un candidat lésé annonce que la CENI a promis de le remettre dans ses droits, mais jusque-là, pas de réaction de la CENI au niveau national. Bonjour à tous. Célébration ce vendredi 3 mai de la 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. La coalition des médias libres affirme s'engager aux côtés des journalistes congolais afin de les aider à produire une information libre, indépendante et pluraliste. Composée notamment des ambassades de l'Allemagne, du Pays-Bas, du Canada et de la Grande-Bretagne, cette coalition a organisé hier jeudi dans la soirée un dîner avec la Corporation de la presse congolaise. Au cours des échanges avec les journalistes, les ambassadeurs accrédités en RDC se sont imprégnés des conditions difficiles dans lesquelles les journalistes congolais exercent leur métier et ont promis de s'impliquer pour la liberté de la presse au pays. On écoute l'ambassadeur de l'Allemagne et président de la coalition des médias libres, Ingo Herbert, est au micro de Michel Kifindangoy.
Pour une démocratie, la presse joue un rôle important. Ça veut dire aussi, dans notre temps, pour la presse, il faut avoir des conditions favorables, l'accès à l'information, des conditions de travail sans menace. On est, comme coalition, engagé pour promouvoir la liberté, mais ça veut dire également dans les pays où la liberté de presse, des médias, est en danger, on s'engage. Je vous donne un exemple. Dans le cas de Stanis Bujakera, on a suivi comme coalition, les procès, et on a fait, par exemple, une déclaration. En plus, on a des programmes pour les aider, de donner même aux journalistes la possibilité de séjourner dans les pays de la coalition, de donner l'exil aux journalistes dans nos pays.
Parlons processus électoral avec cette confusion depuis mardi autour de la publication des résultats de l'élection des sénateurs dans la province du Tanganyika. Les résultats du vote manuel sont différents à ceux du vote électronique. Un candidat élu après le dépouillement des résultats par la CENI à Kalemi n'est pas repris parmi les élus après la publication des résultats du vote électronique par la Commission nationale électorale à Kinshasa. Le candidat lésé annonce que la CENI a promis de le remettre dans ses droits. Aucune réaction de la CENI au niveau national pour le moment. Explication pour les Munanga.
Dans le procès verbal de la CENI publié après l'élection des sénateurs à Kalemi, sur les 25 électeurs qui ont voté, il y a eu 25 bulletins de vote qui ont été dépouillés par la CENI dans la salle de la plénière devant des témoins, des observateurs et des journalistes. Et parmi les 4 sénateurs élus du Tanganyika, il y a Ramazani Masoudi Kilele du regroupement 4AC qui a obtenu 3 voix. Cependant, la CENI à partir de Kinshasa a publié des résultats du vote électronique qui sont différents de ceux publiés à Kalemi. Ici, les nombre total de votants est de 23. Sur ces votes électroniques, on mentionne que 2 bulletins de vote sont non valides. Ainsi, le candidat Ramazani Masoudi Kilele se retrouve avec 2 voix et n'est plus repris sur la liste des élus. C'est Loulou Kitenge du regroupement ANB qui passe avec 2 voix car il est le plus âgé parmi les candidats qui ont obtenu ce même nombre de voix. Face à cette confusion, le secrétaire exécutif provincial de la CENI du Tanganyika a fait savoir que les procès verbaux du vote manuel sont envoyés à Kinshasa. D'après lui, la loi électorale privilégie le vote manuel au vote électronique. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
En Ituri, les activités économiques sont restées paralysées hier jeudi sur toute l'étendue du territoire d'Aru, à 260 km au nord de Bunia. C'est en application de l'opération Journée Ville Morte de 3 jours décrétée par la société civile de cette entité territoriale. Cette structure dénonce le regain de criminalité, dont le meurtre d'un enfant la semaine dernière par des hommes armés, notamment à Aru et Ariwara, mais aussi la vente du véhicule anti-incendie du territoire par un service étatique. Isaac Raymond.
Les magasins, boutiques, stations-service et les marchés sont fermés depuis ce jeudi matin dans les grandes agglomérations dont Aru, Ariwara et Imbokolo. Le trafic est également très timide dans les rues et sur les différents axes routiers qui relient cette entité au territoire voisin de Mahagi en Ituri et Ouacha et Farage dans la province d'Yotouélé. Dans un mémo adressé mardi à l'administrateur du territoire, la société civile fustige les regains des criminalités dans ces milieux. Les cas les plus récents sont le meurtre d'un enfant par balle et l'enlèvement des 2 autres par des hommes armés non identifiés. Cette structure acquise également les services des infrastructures et travaux publics d'avoir vendu les véhicules de forage d'eau destinés à la population de ce territoire. Achidre Issa Traoré.
En ce direct, il y a les kidnappings qui raillent dans notre territoire comme une monnaie courante. Dans un mois, les hommes animés de mauvaise volonté les attirent à l'air au kidnapper des enfants. Dans le centre de négoce d'Ariwara, ils ont tué un enfant et l'autre est rentré vivante. Puis nous réclamons aussi les camions forage dotés par le gouvernement congolais et vendu par les services de ITPR ici à Aru.
Les acteurs de la société civile locale, composés de la Fédération des entreprises du Congo, de la jeunesse et des notables du milieu, ont échangé ce jeudi avec l'administrateur du territoire en vue de trouver une issue à leurs revendications. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Dans la province du Maniema, la société civile Force Vive, antenne de Lubutu, dénonce pour la énième fois la présence des militaires dans les sites miniers de ce territoire. Dans une déclaration à Radio Okapi, son président, Mutoro Mumbere Jean-Pierre, fait savoir que la présence de ces hommes en uniforme nuit à la vie des paisibles citoyens qui s'y trouvent. Il appelle à l'intervention des autorités compétentes. On écoute Mutoro Mumbere Jean-Pierre, joint par Florence Kizalunga.
Nous, Société Civile Force Vive du Maniema, antenne de Lubutu, dénonce et condamne avec toute énergie la présence des militaires au site minier qui se trouve dans le territoire de Lubutu, Massaba, Ndigida, Kilomoto, Tcholo, Magiatane, Etogo et consorts. Cette structure sociale se pose la question de savoir est-ce que ces sites miniers sont à confondre avec Bunagana, Kichanga, Rutshuru, Masisi ou Lubero? Elle demande aux autorités politiques et administratives en général, tant locales au niveau de Lubutu, provincial que national, et au ministre de la Défense de trouver une solution durable dans le sens que certains sites commence d'être ravi par les militaires et les paisibles citoyens, au lieu de se vaguer librement à leurs préoccupations, sont victimes de plusieurs tracasseries, fouets et tortures de toute énergie. Alors nous dénonçons et nous condamnons avec toute énergie et demandons surtout à nos politiques administratives de trouver une solution afin que les pires n'arrivent.
L'administrateur du territoire de Lubutu confirme la présence des militaires, mais il précise qu'ils sont là pour la sécurité des sites miniers appartenant aux Chinois. Au Congo central, les installations de production et de distribution d'eau dans le territoire de Luozi sont à nouveau opérationnelles. L'arrêt de distribution, qui date de 5 mois, était consécutif à une panne au niveau de l'usine de captage causée par la montée des eaux du fleuve Congo. Le directeur provincial de la régie des eaux, Théodore Kabeangandou, demande à la population de payer leurs factures de consommation d'eau pour permettre à cette société d'acheter du gasoil qui va permettre au groupe motopompe du captage d'eau de fonctionner. Le point avec Nana Plurich Mambo.
C'est depuis mercredi 1er mai que le centre de la régie des eaux Luozi, en arrêt depuis le 19 décembre dernier, est remis en service. Ceci réjouit les habitants de la cité de Luozi qui affirment avoir vécu un calvaire pendant l'arrêt de la production d'eau. Joseph Lusanlembo est le président des 10 secteurs de Luozi.
Pendant tout ce temps-là, fallait s'aligner devant quelques puits où on payait 1 bidon de 25 litres à 300 francs. On a eu beaucoup de maladies hydriques, des diarrhées suite à cette eau impure qu'on a consommée.
La régie des eaux dit avoir réuni tous les moyens pour résoudre ces problèmes. Elle s'excuse auprès de ses abonnés de Luozi et les appelle au paiement de leurs factures de consommation. Théodore Kabeangandou, directeur provincial de la régie des eaux Congo central.
Profitons de cet instant pour nous excuser auprès de nos abonnés qui ont tant souffert de cette inactivité qui était due à des intempéries. Dès demain déjà, comme l'eau coule au robinet, que ceux qui ont nos dettes passent les régler pour nous permettre d'assurer la continuité de ces travaux.
Signalons que l'usine de captage et de production d'eau de Luozi est installée au bord du fleuve Congo. Elle a été submergée pendant la crue d'eau du fleuve. Lorsque les eaux se sont retirées, la passerelle d'accès à l'usine et plusieurs machines ont été endommagées. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, la Fondation Mère et Enfants, c'est le nom d'une nouvelle organisation non gouvernementale. Elle se donne comme objectif assurer la prise en charge des femmes, surtout des mères de famille et des enfants démunis. Le lancement des activités de cette ONG a eu lieu le mercredi à Kimwenza, dans la commune de Mongafula. Cette ONG met déjà à la disposition des bénéficiaires un centre de santé où ils peuvent recevoir les premiers soins de santé gratuitement. Elle a aussi remis des fournitures scolaires à certains enfants. Un reportage signé Alphan Poissa.
Edwige Makengili, fondatrice de cette ONG, dit vouloir focaliser l'action de son organisation dans deux domaines, la santé des femmes et des enfants, ainsi que leur éducation.
Dans la Fondation Mère et Enfants, on est là vraiment pour aider. Donc d'abord c'est la santé, ensuite l'éducation, surtout par rapport aux enfants, et l'autonomisation de la femme. Une fondation que nous venons de lancer aujourd'hui officiellement, mais ces personnes-là, je les rencontre depuis un bon moment. Je descends sur terrain, dans un quartier plateau 2, Kimwenza, quartier Manyondi. C'est vraiment très très loin, il faut y aller, il faut avoir des baskets déjà, et faire un long trajet à pied. C'est vraiment là où j'ai eu l'occasion de voir plein de familles et des enfants dans des conditions difficiles. Et comme j'avais cette vision, il fallait quand même le mettre en place.
Du côté des bénéficiaires, la joie était au rendez-vous.
Je suis venue pour la rencontre avec Mamie Edwige. Je suis élève dans l'école et puis Bouenin. Maintenant, on est venu pour la fondation, être membre. Elle nous a donné des cahiers, des livres. Elle fait pour nous beaucoup de choses. Elle est une mère qui a beaucoup d'amour pour les enfants. Merci beaucoup, Maman Edwige.
Ce n'est qu'un début, affirme Edwige Makengele. Elle compte développer d'autres activités pour l'autonomisation de ces femmes et l'amélioration des conditions d'études des enfants des quartiers reculés de Mongafula.
Au Nord Kivu, un deuxième cas d'enlèvement d'enfants en l'espace d'une semaine est signalé dans la ville de Goma. Le ravisseur de la petite Claudine, âgée de 3 ans, se trouve être son oncle, frère biologique de son père. Il réclamait une rançon de $800 américains pour sa relaxe. La police a réussi à mettre un terme à son aventure et l'enfant a été remis à sa famille. Chris Mukande.
Après quelques jours de captivité, la fillette a été rendue ce mardi à ses parents. Cela s'est passé à la mairie de Goma, alors que la police présentait au public la personne ayant ravi l'enfant de son propre frère. L'oncle est allé cacher sa nièce dans l'un des camps de déplacés au quartier Mugunga, dans la commune de Karisimbi, a indiqué le commandant adjoint de la police ville de Goma. C'est à partir de cet endroit que l'oncle a passé des appels anonymes à la famille de son frère, conditionnant la libération de l'enfant par le versement de la somme de $800 américains. C'est grâce à une opération civilo-militaire que l'auteur de cet enlèvement a finalement pu être appréhendé, explique l'officier de police sans plus de précision. Pour sa part, le maire de Goma, le commissaire supérieur principal, Capen Kamand Faustin, s'est dit consterné par la quête de gains faciles chez les jeunes, notamment les désœuvrés. Il est urgent de renforcer l'éducation des jeunes à la culture de la vertu, a-t-il martelé avant d'annoncer le transfèrement de l'oncle aux instances judiciaires compétentes. Signalons que ce cas d'enlèvement d'enfants par des proches arrive à la suite d'un autre survenu à Goma il y a environ une semaine. Goma, Chris Mukande, Radio Kapi.
Parlons santé en Mbujimayi au Kasaï oriental. Plusieurs cas de conjonctivite y sont signalés actuellement. Cette inflammation de la conjonctive ou membrane qui couvre le blanc de l'œil et l'intérieur des paupières se manifeste par l'écoulement de l'œil, la vision brouillée, les démangeaisons au niveau des paupières et la rougeur du blanc de l'œil. Certains malades recourent à l'automédication, mais le médecin épidémiologiste provincial leur demande de se rendre vers les services de santé pour une prise en charge adéquate. Depuis Mbujimayi, Esther Ndalafina.
Lorsque vous êtes sur la voie publique, il ne se passe 10 minutes sans rencontrer une personne en lunettes de soleil, même aux heures matinales. Une façon pour le malade de se protéger contre les intempéries. La conjonctivite n'épargne personne. Jonathan Kambanga, âgé de 6 ans, élève de première primaire, est victime de cette pathologie.
Ça m'a attrapé quand la maman était venue avec ça à la maison. Ça a attrapé d'abord ma grande sœur et puis c'est venu nous attraper nous tous. Je sentais que les yeux me chatouillaient. Quand tu veux ramasser quelque chose, les yeux, tu sens comme si ça avait tombé. Après, les yeux gonflent.
Cette maladie est contagieuse. Jeanne Bellou le témoigne.
Il y a une maman qui est venue nous voir et qui nous a tous contaminés.
Plusieurs malades recourent à l'automédication.
Je suis allé chercher le chloraphénicol. Oui, j'ai commencé à mettre dans les yeux plus de 8 fois.
Cette pratique a des conséquences fâcheuses, comme l'indique Dr Jean-Pierre Soumba, médecin épidémiologiste.
Tout ce que nous demandons, c'est de se présenter au service de santé parce que vous ne saurez pas si c'est causé par des bactéries, par des virus ou si c'est allergique. À ce moment-là, vous risquez de prendre des produits qui peuvent endommager l'œil.
Le médecin épidémiologiste demande à la population de se saluer plutôt que de se serrer la main. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au moins 20 personnes ont été tuées dans un accident de la route ce vendredi dans le nord du Pakistan quand leur bus a raté un virage et plongé dans une gorge sur le fleuve Indus. La mortalité est particulièrement élevée sur les routes au Pakistan entre voies rapides en mauvais état, réglementation laxiste et conduite dangereuse.
L'invité.
À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée ce vendredi 3 mai, nous recevons comme invité dans ce journal le président de la section locale de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, à Beni. Mustapha Mulonda évoque à travers cet entretien la situation de la liberté de la presse à Beni, Butembo et Lubero, région sous état de siège et touchée par l'insécurité. Il s'entretient avec Blaise Makassi.
Mustapha Mulonda, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Quelle est la situation de liberté de presse à Beni, une région qui est sous état de siège et régulièrement touchée par l'insécurité?
Alors, la situation dans laquelle les journalistes travaillent à Beni, c'est une situation précaire parce que la ville de Beni et le territoire de Beni restent une entité en proie à des conflits armés. Puis, l'insécurité de Beni n'est pas comparable à n'importe quelle insécurité du fait que les ennemis qui sont dans les coins, c'est pas dans le sens de kidnapping. Si vous rencontrez par exemple les Nadief, vous êtes parti. Donc c'est une entité très compliquée. Les journalistes travaillent dans des conditions très difficiles et pour cela, il est le 3 mai, la sous-section de l'INPC dans la ville de Beni territoire, nous tenons à encourager, à féliciter ces braves journalistes qui travaillent dans des conditions très difficiles, surtout avec l'état des sièges, une situation très complexe. Une situation exceptionnelle dans laquelle des fois on vous dit de ne pas trianguler l'information parce que comme c'est exceptionnel, les journalistes qui n'est pas au-dessus de la loi, ils ne peuvent pas par exemple remettre à cause les chiffres ou les bilans que les militaires donnent. Voilà un peu des difficultés qui existent. Si vous allez, vous faites le forcing, des fois il y a des interpellations, quelques intimidations, mais bon, il y a quand même une collaboration qui est là, sauf quelques cas exceptionnels où les journalistes sont misélés, pas de liberté.
Dans quel domaine les journalistes de Beni doivent-ils encore progresser pour permettre une bonne intégration de cette liberté de la presse pour qu'elle ne puisse pas virer vers un libertinage?
Alors moi j'encourage beaucoup plus les journalismes sensibles au conflit. C'est vraiment une branche de journalisme qui aide beaucoup plus la communauté à se développer dans la guerre. La difficulté est là, les gens souffrent, mais est-ce qu'il faut beaucoup plus chaque fois rappeler les gens qu'ils souffrent? Je ne pense pas. Il faut essayer de chercher dans cette communauté qui souffre les gens qui sont résilients, qui se développent, voir dans quel secteur ils se développent et essayer de faire la promotion. Moi, je pense que les gens désespèrent des fois, c'est à cause des médias. Quand les médias ne cherchent toujours à amplifier le sang, la souffrance, la population pense qu'il n'y a pas de porte de sortie et les gens deviennent, se sentent inutiles dans la communauté et c'est compliqué. Chercher des éléments qui peuvent unir des gens, que des choses qui divisent beaucoup plus les gens sur le plan communautaire. Tout ce qu'on peut conseiller aux journalistes, c'est amener seulement aux journalistes de rester responsables.
Quel mécanisme vous vous mettez en place pour que régulièrement les journalistes soient responsables de ce qu'ils vont diffuser comme contenu dans leurs médias?
Nous faisons des audits, donc on essaie de écouter beaucoup plus les diffusions dans différents médias, essayer un peu d'analyser. Et si on trouve qu'il y a des dérapages, on essaye d'appeler les responsables ou certains journalistes individuellement. Et si on trouve que c'est récurrent, on réunit tous les journalistes à travers une séance de formation pour essayer de recadrer les choses de manière pratique. Alors, pas seulement du côté des journalistes, mais aussi du côté des acteurs de protection, on a souvent le temps de remonter les alertes, mais aussi de faire des visites dans lesquelles on essaye d'échanger. Cela fait à ce que jusque-là, il n'y a pas vraiment beaucoup plus d'incidents que l'on a résisté dans le cadre de la collaboration entre nous, journalistes, et les acteurs de protection. Et sur le plan pratique, on est très vigilant sur le contenu de médias, parce qu'il ne faut pas dire que tous les journalistes sont des saints. Dans des cadres d'échange, on essaie toujours d'aider les journalistes à ne pas faire de confusion entre les métiers qu'ils font et, par exemple, la politique ou le militantisme qui s'invite de temps en temps dans le journalisme actuellement, mais aussi à Beni en particulier.
Moustapha Moulonda, merci.
C'est à moi de vous remercier, messieurs les journalistes.
C'est par cet entretien entre Blaise Makassi et le président de l'UNPC Beni que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi.